Bienvenue à News in Slow French, un programme plein d'apprentissage et de divertissement. Nous sommes le jeudi 16 mars 2017. Bienvenue pour notre nouvel épisode de News in Slow French. Bonjour à tous nos auditeurs.
Bonjour Catherine.
Bonjour à tous.
Dans la première partie de notre programme, nous discuterons de l'escalade des tensions entre la Turquie et plusieurs pays européens à l'approche du référendum constitutionnel qui se tiendra en Turquie au mois d'avril. Nous continuerons avec la décision rendue mardi par la Cour la plus élevée de l'Union européenne qui pourrait permettre aux entreprises d'interdire à leurs employés le port du foulard et d'autres symboles religieux. Nous parlerons de la découverte jeudi dernier au Caire d'une partie de statues géantes vieilles de 3000 ans par une équipe d'archéologues allemands et égyptiens. Et enfin, nous terminerons avec les propos du pape François dans une interview pour le journal allemand Die Zeit. Il a suggéré qu'il pourrait être ouvert à la possibilité que des hommes mariés soient autorisés à servir comme prêtres.
Je suis fascinée, Catherine, par la découverte de cette statue géante vieille de 3000 ans au Caire. C'est une découverte incroyable.
Je suis d'accord, Charlie.
Mais je ne comprends pas pourquoi il a fallu si longtemps pour la découvrir.
Surtout compte tenu de sa taille colossale. Eh bien, nous discuterons de ce sujet plus en détail dans un moment, Charlie. Mais pour l'instant, poursuivons nos annonces. Dans le segment de grammaire de l'émission, nous aurons un dialogue rempli d'exemples pour illustrer le point de grammaire d'aujourd'hui, les adverbes au comparatif. Et nous conclurons notre programme avec une autre expression française, ne pas être né de la dernière pluie.
Très bien, Catherine.
Merci, Charlie. Oui, que le rideau s'ouvre.
Les tensions augmentent à l'approche du référendum turc.
Une crise a éclaté entre la Turquie et plusieurs pays européens cette semaine suite aux décisions prises par les Pays-Bas, l'Allemagne et d'autres gouvernements d'interdire aux responsables turcs de faire campagne dans leur pays pour soutenir le oui au référendum qui élargirait les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. En réponse, M. Erdogan a accusé les gouvernements allemands et néerlandais de nazisme et a suspendu les relations diplomatiques au plus haut niveau avec les Pays-Bas. Le référendum, prévu pour le 16 avril, permettrait à Erdogan d'émettre des décrets d'état d'urgence et de nommer directement les hauts fonctionnaires. Au début du mois, l'Allemagne a bloqué des rassemblements visant à renforcer le soutien pour le référendum au sein des communautés turques qui y vivent. Et samedi, les Pays-Bas ont interdit à deux ministres turcs de s'adresser à des expatriés au sujet du vote. L'Autriche, le Danemark et la Suisse, qui ont aussi d'importantes communautés turques, ont pris des mesures similaires. Mardi, Erdogan a critiqué les Pays-Bas pour avoir omis de protéger les Bosniaques pendant le massacre de Srebrenica en 1995, en disant que cet événement avait révélé le caractère pourri des Néerlandais. Hier, les comptes Twitter du Parlement européen, de médias de premier plan et d'hommes politiques, ont été brièvement piratés et ont affiché des tweets avec des symboles nazis et l'expression Rendez-vous le 16 avril.
Erdogan doit être inquiet. Un sondage récent montre que le non a une légère avance. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il cherche à obtenir plus de votes pour le oui, ou que possible. Et où peut-il chercher du soutien ? À l'étranger, bien sûr. Environ 5,5 millions de Turcs vivent à l'extérieur de leur pays.
C'est pour ça que le gouvernement turc a organisé une impressionnante campagne de propagande. Il dit que les gens qui votent pour le non se rallieraient à ceux qui ont planifié le coup d'État contre Erdogan l'été dernier. Il a également retiré de la circulation des brochures anti-tabac parce qu'elles comportaient le mot « non » écrit en caractères gras majuscules. Le gouvernement a pensé que cela pourrait porter à confusion.
Sérieusement ? Incroyable ! Eh bien, il semble que Erdogan cherche à unir la Turquie contre le reste de l'Europe avec ses remarques. Cette tactique avait marché pour lui lors des précédentes élections, quand il avait accusé des groupes d'être les ennemis du pays et avait affirmé qu'il devait gagner pour pouvoir faire face à ses ennemis.
Peut-être bien, mais en attendant, je m'inquiète des conséquences de ces tensions pour l'Europe.
Oui, cela pourrait nuire à l'accord entre Bruxelles et Ankara sur les réfugiés. La Turquie reçoit des fonds de l'Union européenne et en échange, elle accueille plus de réfugiés syriens et empêche les demandeurs d'asile de traverser la mer pour rejoindre la Grèce. Si l'accord échoue, cela pourrait créer beaucoup d'incertitudes. La Cour de justice de l'Union européenne décrète que l'interdiction du voile peut être légale.
La plus haute instance juridique de l'Union européenne a jugé mardi que les entreprises pouvaient interdire à leurs employés le port du foulard et d'autres symboles religieux. Toutefois, une telle interdiction doit se fonder sur les règles de l'entreprise exigeant d'avoir une tenue neutre et non pas sur les souhaits des clients. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui s'applique à l'ensemble des 28 pays de l'UE, a été motivée par deux affaires. Celle d'une réceptionniste belge qui a été licenciée pour avoir porté un foulard au travail, et celle d'une ingénieure française consultante en télécommunications qui a perdu son emploi suite à la plainte d'un client au sujet de son foulard. En ce qui concerne le premier cas, le tribunal a jugé que la société avait le droit de licencier la réceptionniste, vu que sa politique vestimentaire s'appliquait à tous les employés, quelle que soit leur religion. Dans le second cas, le tribunal a jugé que les préférences des clients ne pouvaient pas être utilisées pour contourner la législation européenne anti-discrimination. Des groupes religieux et des associations de défense des droits de l'homme ont dénoncé cette décision, estimant qu'elle conduirait à plus de discrimination au travail. Plusieurs politiciens de droite l'ont salué, notamment Georges Pasderski, le chef de file du parti Alternative für Deutschland, ainsi que le candidat conservateur à l'élection présidentielle française, François Fillon.
Catherine, les groupes religieux et les organisations de défense des droits de l'homme disent que la décision de la Cour de justice conduira à plus de discrimination. Ils disent qu'elle pourrait donner aux entreprises une excuse pour traiter les musulmans injustement, surtout compte tenu du climat politique qui règne dans une grande partie de l'Europe en ce moment.
Mais Charlie, la CJUE a été claire sur le fait que l'interdiction des signes religieux doit s'appliquer à tous les employés, quelle que soit leur religion. Elle a précisé que cela concernerait aussi d'autres symboles religieux comme les crucifixes et les kippas.
Oui, mais l'interdiction des signes et vêtements religieux affecte beaucoup plus les musulmans, en particulier les femmes. Les chrétiens peuvent porter de petites croix en pendentif sans que personne ne s'en aperçoive. Il y a aussi beaucoup plus de musulmans dans l'Union européenne qu'il n'y a de juifs. C'est bien connu. Le foulard fait partie des symboles religieux les plus controversés en Europe en ce moment.
Je vois ce que tu veux dire, Charlie, mais je ne pense pas que ce soit si étrange que ça, que les entreprises veuillent imposer des codes vestimentaires en mettant l'accent sur la neutralité. De nombreuses entreprises ont des règles sur ce que les employés peuvent ou non porter.
Tu as raison. Mais je crains que l'arrêt de la CJUE ne puisse avoir des conséquences néfastes. Et si les entreprises qui ne disposent pas de code vestimentaire décidaient maintenant d'en mettre en place un, juste au cas où un client se plaindrait? Tant que le code s'applique à l'ensemble du personnel, ce sera autorisé. Une statue géante d'un pharaon égyptien a été retrouvée dans un bidonville du Caire.
Jeudi dernier, une équipe d'archéologues allemands et égyptiens a exhumé une partie de statue de 3000 ans qui, selon toute vraisemblance, représente Ramsès II, le pharaon le plus puissant et célèbre de l'Égypte antique. Le ministère égyptien des Antiquités a déclaré que cette statue de 8 mètres était l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du pays. Cette découverte a été une surprise et est arrivée à la fin de fouilles qui ont duré 5 ans près des ruines du temple de Ramsès dans la ville antique d'Héliopolis, à l'est de la ville moderne du Caire. Bien qu'il n'y ait aucune inscription sur la statue de quartzite, son emplacement incite les archéologues à penser qu'elle représente Ramsès. L'équipe a également découvert une section de 80 cm d'une statue grandeur nature en calcaire du pharaon Séti II, petit-fils de Ramsès II. Ramsès a gouverné l'Égypte de 1279 à 1213 avant notre ère, et étendu l'empire égyptien par la conquête de certaines parties de la Nubie situées aujourd'hui en Syrie et au Soudan. La tête et le torse de la statue seront déplacés vers le Grand Musée égyptien de Gizeh, qui ouvrira ses portes l'année prochaine.
Catherine, tu as vu la vidéo qui montre le moment où les archéologues ont sorti de terre la statue?
Oui, c'est incroyable. Dire que cette statue était là depuis des milliers d'années, juste au-dessous des habitants, et qu'elle vient à peine d'être découverte.
La ville d'Héliopolis était l'un des lieux de culte les plus importants de l'Égypte antique. Selon le système de croyances des pharaons, c'est là que le monde a été créé. C'est aussi là qu'on trouve quelques-uns des temples les plus majestueux construits dans l'Antiquité.
Tu sembles en connaître un rayon sur l'Égypte antique, Charlie. Tu aimerais faire partie de cette équipe d'archéologues?
Je ne suis pas sûr. Faire de telles découvertes est formidable, mais ça demande beaucoup de temps et un travail acharné. Mais j'ai toujours été fasciné par les cultures antiques. Et je me plais à imaginer comment les gens vivaient il y a si longtemps.
Moi aussi. Et je pense que la découverte de cette statue sera utile pour l'industrie du tourisme égyptienne. Depuis le soulèvement contre Hosni Moubarak en 2011 et le bombardement de l'avion russe dans le Sinaï, le nombre de touristes a beaucoup baissé en Égypte. Cette nouvelle découverte incitera peut-être plus de gens à visiter le pays.
Je l'espère aussi. Et j'imagine que cela ferait plaisir aussi à Ramsès. Le pape François est ouvert à l'ordination de prêtres mariés.
Dans une interview pour le journal allemand Die Zeit, donnée la semaine dernière, le pape François a suggéré que l'Église catholique pourrait envisager l'ordination d'hommes mariés pour faire face à la pénurie de prêtres dans certaines régions éloignées du monde. Il a précisé qu'il ne préconise pas une fin du célibat des prêtres, mais plutôt des exceptions en fonction des besoins. Si la proportion de prêtres par rapport au nombre de catholiques a diminué de manière générale ces dernières décennies, la pénurie est particulièrement critique en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Dans certaines parties de l'Amazonie, par exemple, il y a un prêtre pour environ 10 000 catholiques. En conséquence, les habitants ne peuvent assister à la messe que quelques fois par an. Les prêtres étaient autorisés à se marier durant les premières années de l'Église catholique, avant que l'exigence du célibat ne soit adoptée au XIIe siècle. Aujourd'hui, les prêtres des Églises catholiques d'Orient, qu'on trouve en Europe de l'Est, en Afrique de l'Est et en Inde, sont autorisés à se marier. Les prêtres anglicans mariés, qui se sont convertis au catholicisme, sont également autorisés à servir.
Oui, c'est une solution très pratique au problème. Permettre l'ordination d'hommes mariés aidera à résoudre la pénurie des prêtres. Mais pourquoi est-ce que cela ne sera autorisé que dans des régions éloignées? Pourquoi pas l'appliquer à toute l'Église catholique?
Charlie, tu parles comme si l'Église catholique avait déjà accepté cette mesure.
Désolé, je me suis un peu emballé. Je sais bien que, pour le moment, ce n'est qu'une suggestion. Mais c'est une suggestion qui vient du pape.
C'est vrai, mais revenons à notre discussion. Certains catholiques pensent que les hommes mariés devraient être autorisés à devenir prêtres. Mais d'autres ne sont pas de cet avis et disent que l'absence d'obligation familiale permet aux prêtres de se consacrer pleinement à Dieu.
C'est un argument qui se tient. D'un autre côté, renoncer à avoir une famille est un grand sacrifice. Et c'est sans doute un sacrifice que certains hommes, envisageant la prêtrise, ne sont pas prêts à faire.
Tu as raison. Selon une enquête réalisée il y a quelques années auprès d'étudiants de collèges catholiques et publiée en 2005 dans le magazine Boston College Summer, le célibat était le facteur le plus important dissuadant les hommes de devenir prêtres. Si le célibat était facultatif, suggérait l'étude, il y aurait 4 fois plus d'ordinations de prêtres.
Eh bien, quelque chose doit être fait pour combler cette pénurie. Même si plus d'hommes, peut-être inspirés par les positions du pape François sur la pauvreté et les questions sociales, sont entrés au séminaire ces dernières années, l'Église pourrait bientôt être obligée de repenser les conditions requises pour devenir prêtre.
Eh bien, François a clairement indiqué que les femmes ne seraient pas ordonnées de sitôt. Alors l'Église va devoir trouver un moyen d'attirer plus d'hommes.
Pew. Puis on continue avec la grammaire, un mal nécessaire.
Comparatives and adverbs. Est-ce que tu as peur de l'avion?
Un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Il faut dire que depuis que je vis outre-Atlantique, je prends beaucoup plus souvent l'avion et j'ai été contrainte de mieux gérer mon angoisse.
C'est vrai qu'en France, même pour aller d'un bout à l'autre du pays, on peut plus facilement prendre un autre moyen de transport si on a peur de l'avion.
Exactement.
Et tu as trouvé des trucs pour prendre l'avion plus sereinement?
Eh bien, j'essaie de respirer aussi lentement que possible et de m'occuper l'esprit avec des jeux, des films, un bon livre. Et bien sûr, j'essaie de voir les choses aussi rationnellement que possible.
Tu te dis que les accidents d'avion arrivent bien moins fréquemment que les accidents de voiture. Et donc, qu'en termes de sécurité, il vaut mieux choisir ce mode de transport.
C'est ce que je me répète aussi souvent que nécessaire quand je commence à angoisser.
En plus, à chaque fois qu'une catastrophe aérienne se produit, les experts en tirent des leçons pour mieux construire les avions et mieux former le personnel.
Tu veux dire que je devrais me réjouir à chaque fois qu'a lieu un accident aérien?
Non, bien sûr. Mais grâce aux mesures prises après chaque crash, les pilotes conduisent plus sûrement qu'autrefois et les techniciens vérifient plus minutieusement les appareils avant le décollage.
C'est vrai.
Et puis, il se produit beaucoup plus rarement de catastrophes aériennes qu'il n'y paraît. Quel crash t'as plus marqué que les autres?
Celui du Concorde en 2000. Le Concorde était une légende et je m'attendais aussi peu à ce qu'il ait un accident qu'en 1912, les gens ne s'attendaient au naufrage du Titanic.
C'est vrai. Ce crash causé par une simple lamelle sur la piste qui a endommagé un pneu nous a fait réaliser, plus que jamais, combien la vie ne tient parfois qu'à un fil.
Tu ne m'aides pas trop en disant ça, Charlie. Le crash du vol 447 Rio-Paris en 2009 a aussi défrayé la chronique. Tu t'en souviens?
Oui, et même encore plus nettement que celui du Concorde. L'accident a été causé par une sonde de vitesse défectueuse et par une attitude irrationnelle des pilotes.
Ah, l'erreur humaine! Elle me terrifie encore plus qu'un problème technique, car elle est encore plus imprévisible.
Oui, surtout qu'on observe chez les pilotes une tunnelisation de l'attention, plus fréquemment que dans les autres professions. C'est dû en particulier à la profusion d'informations, parfois contradictoires, qu'on trouve dans un cockpit.
Ça me rassure encore moins tout ça, Charlie.
Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on forme mieux les pilotes et ils gèrent plus efficacement leur stress.
Pas sûr. Tu as oublié l'avion de Germanwings qui s'est écrasé en France en 2015?
Depuis ce crash, d'autres mesures ont encore été ajoutées à celles qui existaient déjà. Tu dois reconnaître aussi que les gens meurent plus souvent à cause du stress et des maladies qu'ils génèrent qu'à cause d'accidents aériens.
Donc en gros, je ne dois pas avoir peur de l'avion, mais avoir peur d'avoir peur.
Oui, Franklin Roosevelt a dit « La seule chose que nous devons craindre est la crainte elle-même. »
On termine avec les expressions idiomatiques au goût chic.
Ne pas être né de la dernière pluie.
to not be dumb, to not be born yesterday.
Catherine, es-tu du genre à croire tout ce qu'on te dit?
Pas du tout, Charlie. Je ne suis quand même pas née de la dernière pluie.
Je le sais bien, Catherine. Mais si tu es d'accord, j'aimerais bien que nous fassions un petit test.
Pourquoi pas? À quoi as-tu pensé?
Je vais te donner quelques informations et tu dois me dire si elles sont vraies ou fausses. C'est l'occasion de parler de quelques anecdotes amusantes.
Bonne idée, je t'écoute.
Allons-y. En 1975, deux inventeurs français ont mis au point un avion capable de détecter les gisements de pétrole à distance, depuis le ciel. On l'a appelé l'avion renifleur.
C'est faux, bien entendu. Toute cette histoire était une belle escroquerie. La très sérieuse entreprise Elf s'est faite rouler dans la farine par les deux faux inventeurs. Elle a perdu des millions de francs dans cette arnaque en investissant dans ces avions censés trouver du pétrole.
Eh oui, Catherine. Ce scandale a même touché le gouvernement, jusqu'au président de la République.
Mais comment ont-ils pu croire à un truc pareil? Il était facile de comprendre que c'était n'importe quoi.
Ce n'est pas toujours aussi simple, malheureusement. Ces deux escrocs ont réussi à voler beaucoup d'argent à des hommes haut placés et qui n'étaient pas nés de la dernière pluie.
Je pense qu'ils devaient être vraiment très doués.
Sûrement. Mais continuons notre petit test.
Je t'écoute.
Voici la deuxième information. Il nous reste un exemplaire original d'une lettre de Cléopâtre à Jules César.
C'est complètement faux, bien entendu. Si c'était le cas, ça se saurait.
Évidemment. Mais à la fin du 19e siècle, un escroc a réussi à vendre à un mathématicien français cette fausse lettre, ainsi que bien d'autres.
À un mathématicien? Pourtant, on pourrait penser qu'un scientifique n'est pas né de la dernière pluie.
Eh bien si, Catherine. Il a acheté à cet escroc près de 27 000 fausses lettres émanant de personnages historiques ou bibliques célèbres. Il paraît qu'il aurait même acheté dans le lot une lettre de menace de Caïn envers Abel.
Vraiment? C'est incroyable de tomber dans le panneau à ce point.
Oui, pauvre homme. Cette histoire lui a fait beaucoup de tort, comme tu peux l'imaginer. Mais passons à l'affirmation suivante.
Je suis prête.
Il est possible d'acheter des parties de la Tour Eiffel.
Je sais bien que non, Charlie. On avait déjà parlé d'une escroquerie semblable qui avait eu lieu. La Tour Eiffel n'est pas à vendre.
Eh bien, certaines de ces parties, si. Catherine, certains morceaux d'escalier, qui ont été remplacés depuis, sont régulièrement vendus aux enchères. Ça paraît incroyable, mais si, tu peux devenir propriétaire d'un morceau de la Tour Eiffel. Moyennant pas mal d'argent quand même.
Je n'aurais jamais cru ça possible.
Et pourtant, c'est vrai, Catherine. Notre petit test montre qu'il n'est pas toujours facile de distinguer le vrai du faux, même quand on n'est pas né de la dernière pluie.
Bien Charlie, cela finit l'épisode de cette semaine. Merci à tous nos auditeurs. Salut, à la prochaine.
Et voilà, effectivement, c'est terminé. On se retrouve très vite la semaine prochaine. À bientôt.
À bientôt.